Québécois sur 10 pensent que nos frontières sont trop perméables, que les immigrants menacent la pureté du Québec. 4 sur 10. Est-ce que le Québec est en train de se radicaliser? Ce soir, à Télé-Québec, un ancien skinhead néo-nazi croit que oui.
Je m'appelle Maxime Fizette. J'ai l'air tranquille, mais je suis vraiment inquiet.
Découvrez son combat dans le documentaire La Bombe. Ce soir, 20h, à Télé-Québec.
Vous l'avez entendu dans la pub, Maxime Fizette est aujourd'hui chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. On le joint à l'instant. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon et le producteur Mathieu Paiement sont un peu à l'origine du projet. Comment est-ce que tu as fait leur connaissance?
C'était la conférence de l'UNESCO en 2016. On était sur le même panel pour parler de radicalisation. On parlait surtout de radicalisation de djihadistes à l'époque à cause de Daesh puis tout le gros buzz. Mm-hmm. Mais par pur hasard, j'étais assis à côté d'eux. Je me suis présenté. Salut, moi c'est Maxime. C'est un ancien skinhead néo-nazi. Puis si Gab n'a pas immédiatement pensé faire un film avec ça, Mathieu, là, c'était dead set dans sa tête. Il voulait vraiment aller de l'avant avec le projet.
Maxime, le tournage supposait que tu allais remonter dans ton passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à te prêter à cet exercice-là?
Ben, je pense que c'est un exercice qui est difficile, honnêtement. J'ai l'impression de me mettre tout nu devant tout le monde. Puis des fois, j'ai un peu de misère à vivre avec ça. Mais je pense que c'était nécessaire parce que il y a des points de mon passé qui font qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je m'inquiète pour la situation. Je veux pas faire alarmiste. En fait, la bande-annonce est super tough, mais en fait, quand on écoute le film, je pense qu'en bout de ligne, on a plus de questions que de peurs qui arrivent. Mais il y a quand même des inquiétudes, puis j'ai l'impression qu'il y a des choses dans mon passé qui se répètent un peu dans le présent, puis en l'explorant, en le visitant, on espère en tout cas au moins lever les questions à ce sujet-là.
Depuis combien de temps est-ce que tu t'es éloigné de ce milieu-là, Maxime?
Socialement, j'ai commencé à m'en éloigner aux alentours de 2010-2011, là, parce que j'avais moins de temps pour me tenir avec eux, mais je suis vraiment comme, je fais mes derniers milles en 2012, j'ai claqué la porte pas longtemps après. Fait que ça fait, près de 6 ans, là, que je suis plus proche de ces milieux-là, à peu près.
Qu'est-ce qui t'avait attiré au départ?
Honnêtement, j'avais tous les ingrédients pour me radicaliser. J'étais super nationaliste. Je vivais vraiment très mal l'échec du référendum de 95. Je voyais la crise économiquement raisonnable arriver, puis j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. J'étais comme dans un mauvais contexte avec les facteurs de vulnérabilité que j'avais, c'est-à-dire j'avais une grande curiosité, mais un faible esprit critique. J'avais besoin de me prononcer sur tous les sujets, de tout comprendre, même si c'était vraiment impossible. Mm-hmm. Et ça m'a rendu vulnérable. Puis à un moment donné, ça, c'était comme un gros bobo. Ça n'arrête pas de s'infecter, mais quand j'ai rencontré d'autres néo-nazis, ben, c'est arrivé.
Puis est-ce que forcément, pour se radicaliser, il faut qu'il y ait un vide, une carence dans la vie personnelle?
Peut-être pas une carence, mais c'est sûr que ça prend une petite bébite, là, genre quelque chose qui nous gratte. Souvent, ça va être ce qu'on va appeler une injustice perçue. Elle n'est pas nécessairement objective, mais par la personne, elle est vécue comme tout à fait réelle. Puis faut prendre ça en compte d'ailleurs quand on intervient. Il y a un sentiment d'injustice, quelque chose qui va pas bien, quelque chose qui devrait pas être comme ça. Les Allemands appellent ça Weltschmerz. Là, c'est parce que ça pour dire que chez les personnes qui se radicalisent, on pourrait dire ce manque-là, mais c'est un manque par rapport à une réalité qui a jamais existé, qui devrait être. Fait que ça peut être quand même assez intense, mais c'est sûr qu'on se radicalise pas pour le fun.
Est-ce qu'il y avait des femmes dans le groupe dont tu étais sympathisant ou est-ce que c'est surtout une affaire d'hommes?
Ah ben c'est sûr que ça a toujours été plus une affaire d'hommes, l'extrême droite. Mais il y avait des femmes, puis tu sais, dans le groupe où ce que j'étais, si on veut prospect, là, Sainte-Foy-Crou, il y avait quand même plusieurs femmes. Mais dans le groupe que j'ai fondé, la Fédération des Québécois de souche, il y en avait plusieurs dans l'équipe d'administration. Là, on était pas à parité, certainement pas, mais il y avait au moins 2 femmes qui travaillaient avec moi, là.
Puis en 2008, tu as été arrêté par l'escouade de lutte contre le terrorisme de la SQ pour propagande haineuse. Ta mère relate l'événement dans le documentaire. Avec le recul, est-ce que c'est ça qui te shake le plus de constater ce que ça a pu faire à ta mère, à tes parents à cette époque-là?
Absolument. Je pense que là, aujourd'hui, je vis quand même assez bien avec mon passé. J'ai appris à construire dessus pour essayer de faire quelque chose de mieux. Mais je pense que je pourrais jamais me pardonner les espèces de montagnes russes émotionnelles que j'ai dû faire vivre à mes proches, puis pas juste mes parents, là, mes amis, puis ma famille élargie aussi. Ça a tellement dû être difficile pour eux, mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y en avait pas de ressources comme le centre de prévention, fait qu'il n'y avait rien, ils ne pouvaient rien faire.
Je veux qu'on parle un peu du phénomène de radicalisation au Québec. Il est question de nationalisme dans le documentaire. C'est pas tous les nationalistes qui sont racistes, mais dirais-tu que la majorité des racistes essaient de se draper de nationalisme?
C'est effectivement ça. Le nationalisme traditionnel québécois, c'est un nationalisme de célébration puis d'ouverture. Mais tous les groupes d'extrême droite, à peu près sans exception, se disent nationalistes ou patriotes. Ils vont se servir de ça, évidemment, pour recruter, pour paraître mieux. Mais il y a aussi une autre raison. Le nationalisme, dans mon cas, ça a été un facteur de vulnérabilité. Puis pour les personnes qui s'engagent dans les mouvements d'extrême droite, ça peut être aussi le bobo qui n'est pas encore infecté, mais qui pourrait le devenir advenant, mettons, le mauvais hasard. Fait que, il n'est pas question de faire le procès du nationalisme, là, puis ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement, mais vraiment présent durant tout le film, d'être très
prudent là-dessus. C'est délicat, ben oui.
On doit en parler par appareil, parce que l'extrême droite, ben, ça apparaît pas de nulle part. Ils disent tous nationalistes, quelque part, il faut peut-être qu'on essaye de distinguer ce nationalisme-là de celui qui est beaucoup plus légitime. Là.
Ça peut servir de porte d'entrée pour le recrutement. Tu le disais, en parlant de recrutement, à quel point est-ce que les médias sociaux, c'était pas présent à l'époque où toi, tu t'es radicalisé, mais aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement utilisé. À quel point ça a facilité la tâche aux radicaux?
Ben, dans le temps, on avait des forums, fait qu'on réussissait à genre être 200, puis on était vraiment fiers. Aujourd'hui, il y a les médias sociaux, puis les médias sociaux ont comme percé la membrane, le monopole que les médias traditionnels exerçaient sur le discours public. Puis ça, ça a permis à plein d'idées plus extrêmes d'apparaître sur les écrans des gens, mais ça a aussi permis à ces groupes-là d'avoir une vitrine, puis de recruter. Fait que c'est sûr qu'en fin de compte, là, je pense que c'est une conclusion sur laquelle on peut tous être certains, c'est que les médias sociaux, dans la période 2014-2017 surtout, ont été un vecteur de radicalisation pour beaucoup de personnes.
Si tu pouvais ordonner à Mark Zuckerberg de le faire, est-ce que tu lui dirais de censurer ces messages-là sur Facebook, ces groupes-là? Parce que d'un autre côté, les autorités peuvent dire que c'est pratique pour les suivre, pour les monitorer. Ce serait quoi ta décision par rapport à ça?
Ben c'est ça l'embêtement. Moi aussi j'aime bien ça, pouvoir les suivre, pas les monitorer comme la police, mais moi j'apprends énormément en regardant ce qu'ils font, ce qu'ils disent, les vidéos qu'ils publient. Puis c'est sûr qu'à quelque part là il y a comme un juste milieu. Au Canada il y a des lois par exemple sur la propagande haineuse, l'incitation au génocide, les belles sommatoires, ces choses là on doit les appliquer dans une saine mesure. On ne peut pas criminaliser là, chaque petit monsieur, petite madame là qui dit que les musulmans c'est des bâtards là. Je pense qu'il faut faire la part des choses, mais il faut quand même que ces lois-là soient appliquées dans une certaine mesure. Puis il faut aussi, évidemment, qu'il y ait une modération efficace. Je pense que si je devais donner un petit coup de fouet à Mark Zuckerberg, je dirais, man, engage-toi au moins un ou deux spécialistes par pays pour qu'ils comprennent les enjeux locaux, parce que la radicalisation, c'est un phénomène global, mais qui a toujours des racines locales.
Tu dis constater une décroissance au sein de ces groupes-là depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
Ben, on a beaucoup fait de sensibilisation. Je pense qu'on peut se donner une petite tape dans le dos, là, toutes les personnes qui ont tenu le bâton contre les groupes d'extrême droite, qui ont pris la parole, qui ont dénoncé, qui ont expliqué, qui ont vulgarisé. On a fait un grand travail, on a travaillé très fort. Il y a aussi le fait, puis c'est vraiment important de le dire, il n'y a pas plus que 40 000 Québécois qui sont intéressés par la meute. Il n'y en a pas plus que ça. La meute, c'est pas le peuple, c'est 40 000 personnes. Les autres Québécois veulent rien savoir de tout ça. Puis c'est pour ça que je dis que les Québécois sont pas racistes. C'est des peuples les plus ouverts du monde parce qu'ils ont juste 40 000 membres. Ben, abonnés, c'est même pas des vrais membres.
Oh, et tu parles de sensibilisation, mais ils ont eu de la visibilité aussi. Puis penses-tu que les médias traditionnels comme nous, on parle trop de la meute d'Atalante et des autres parce que ça leur apporte une certaine notoriété, même si notre but, c'est de présenter objectivement leur action. Il y a des gens qui entendent parler de ces groupes-là pour la première fois en écoutant la radio puis en regardant la télé?
C'est vrai, c'est vraiment une très bonne question. Moi, je suis adepte du No Platform, c'est-à-dire que je trouve que c'est important d'en parler. C'est vrai qu'on en a peut-être parlé un petit peu trop, mais en même temps, tous les groupes extrémistes reçoivent énormément plus d'attention que ce qu'ils méritent des médias. C'est toujours de même l'extrême gauche puis les djihadistes, la même affaire. Il faut en parler. Parce que la lumière, c'est le meilleur désinfectant. C'est juste qu'il faut savoir le faire. Il faut le faire de manière prudente. Il ne faut pas leur tendre le micro puis leur laisser dire ce qu'ils veulent, évidemment. Mais il ne faut pas non plus passer ça sous silence. Parce que dans mon temps, les médias n'en parlaient pas, mais on était là pareil. T'sais, on existait quand même.
Ouais. On parlait de décroissance tantôt. Est-ce que c'est un répit de courte durée? Parce qu'on a un nouveau gouvernement, puis immanquablement, on va retomber dans un nouvel épisode du débat autour des signes religieux au cours des prochains mois. Puis peu importe l'issue du débat, puis le ton des échanges pendant ce temps-là, est-ce que tu penses que ça va donner du gaz à ces groupes-là?
Je sais pas. Monsieur Legault se sent peut-être pas obligé d'agir rapidement sur ce dossier-là. Fait que ça nous donne peut-être une marge de manœuvre. Parce qu'il est majoritaire. Il peut faire ce qu'il veut pendant quatre ans. Là. Il a les deux mains sur le gouvernail. C'est sûr que si le débat recommence, s'il est aussi polarisé que dans le temps du projet de charte du PQ, puis là, je blâme pas le projet en soi, mais vraiment le débat, ça pourrait faire du mal. Mais en même temps, on a peut-être appris un peu. Je suis un peu optimiste, je suis pas sûr de ce que je dis, là, mais on a peut-être appris un peu de nos erreurs. Ce qui m'inquiète le plus, c'est si le contexte, on va dire économique, macroéconomique change. Là. Si on arrive en crise économique, watch out, par exemple, les groupes d'extrême droite, la montée que ça va avoir, parce que ces groupes-là s'alimentent un peu du cynisme, de la désillusion des gens, puis de leur misère aussi, ils profitent de la misère du monde. Ouais. Puis, si la moitié des gars arrivent seuls, se ramassent précaires, puis qui travaillent plus 4 mois par année, j'ai un peu peur pour ce qui va arriver.
C'est l'injustice perçue dont tu parlais tantôt. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne du visionnement ce soir?
C'est super important que les gens se souviennent qu'on ne fait pas le procès du nationalisme, qu'on ne fait pas le procès de la campagne électorale ou du parti au pouvoir actuellement. Il n'est pas question de traiter qui que ce soit d'extrémiste de droite à part les groupes dont il est question dans le film. Cela dit, il faut que le film serve un peu de plateforme pour que les gens soient capables de parler entre eux, d'ouvrir une discussion, parce que le but de ce film-là, en fin de compte, c'est de comprendre ce qui motive ces gens-là à s'engager. Il y a une raison qui les pousse à ça. Puis il y a peut-être même des points légitimes dans ce qu'ils perçoivent comme injustice. Puis il faut démêler ça, cette espèce de foutoir que les groupes d'extrême droite ont fait en instrumentalisant les peurs des gens puis leurs préoccupations pour des objectifs politiques.
Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps cet après-midi. On regarde ça ce soir.
Un grand plaisir, merci beaucoup.
Salut Maxime. Maxime Fizet, il est chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, ex-skinhead lui-même. C'est son histoire qu'on va voir dans le documentaire La Bombe, ce soir, 20h à Télé-Québec. Le retour.